un podcast RFI.
Mai 2018. Chaque vendredi, depuis un mois et demi, des dizaines de milliers de Gazaouis se rassemblent au pied de la barrière de séparation érigée par Israël dans des terrains sableux. Ils réclament le droit de regagner des villages dont la majorité des Gazaouis ont été chassés ou qu'ils ont fui en 1948 lors de la première guerre israélo-arabe. Mais ils exigent surtout la fin du blocus imposé à leur territoire par Israël. Ce mouvement, c'est la marche du retour. C'est l'un des moments d'extrême tension que j'ai couvert lorsque j'étais correspondant à Jérusalem. Pendant plusieurs mois, je me suis alors rendu régulièrement à Gaza pour suivre cette marche du retour.
La journée était à haut risque, mais Taher Omar, comme chaque vendredi, est venu en famille. Et si ses 6 enfants devaient eux rester dans les tentes installées en retrait, elle entendait bien marcher vers la barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël.
Je vois que les gens s'approchent et j'y vais aussi. Les soldats israéliens ne nous effraient pas. Nous avons le droit pour nous. Et celui qui a le droit est plus fort.
Des milliers de manifestants sont entrés dans la zone tampon décrétée par l'armée israélienne, mais la plupart sont restés à quelques dizaines de mètres des grillages israéliens. Anas Mousran, lui, entendait tenter de franchir avec ses amis la barrière.
Nous avons déjà réussi à entrer. C'était il y a 2 semaines. On a fait une centaine de mètres et jeté des pierres sur les soldats juifs.
Les organisateurs avaient appelé les manifestants à traverser en masse le dispositif de séparation, mais les tentatives d'intrusion ont été limitées, assure Hossam, présent au point de rassemblement à l'est de la ville de Gaza.
Il y en a qui ont essayé de passer, mais les Israéliens leur ont tiré dessus et en ont tué certains. Mais ils vont continuer, car ils ont le sentiment d'être humiliés ici.
Depuis 11 ans, la bande de Gaza est soumise à un blocus. Des grillages surmontés de fils barbelés entourent ce territoire. La bande de Gaza, langue de terre sur la côte méditerranéenne à la frontière avec l'Égypte, ne fait qu'une quarantaine de kilomètres du nord au sud et de 6 à 12 kilomètres d'est en ouest. Elle est devenue une enclave coupée du monde, dans laquelle vivent alors 2 millions de personnes. Au fil des ans, l'économie a décliné. Les entreprises ont du mal à fonctionner, le chômage s'est développé pour atteindre près de la moitié de la population active. La pauvreté s'est installée. Je suis Guilhem Delteille, grand reporter à RFI. Vous écoutez Palestinien, épisode 4, carte d'identité, Gazaoui. Jusqu'au 7 octobre 2023, quelques rares personnes étaient autorisées à entrer dans la bande de Gaza. Avec l'autorisation des autorités israéliennes et du Hamas, j'ai pu m'y rendre régulièrement lorsque j'étais correspondant à Jérusalem. Mais depuis les massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien et le début d'une guerre particulièrement violente dans l'enclave palestinienne, les travailleurs humanitaires sont les derniers autorisés à s'y rendre, en passant par l'Égypte. Lorsque nous réalisons cet épisode en 2024, Israël bloque l'accès à la bande de Gaza. C'est donc avec des témoignages recueillis par téléphone, WhatsApp ou à l'extérieur de Gaza, avec des archives, des reportages que j'ai pu réaliser sur place durant mes années de correspondance, que je vais vous raconter l'histoire de ce territoire. Zone côtière, ville portuaire, aujourd'hui coupée du monde. Le Gaza que j'ai connu avait peu de portes vers l'extérieur. Il y en avait 3. Rafah était le poste permettant le passage de personnes et de marchandises vers l'Égypte. Kerem Shalom, en hébreu, Kerem Abou Salam en arabe, permettait lui la circulation de marchandises vers et depuis Israël. Enfin, Erez, ou Beit Hanoun en arabe, était le poste de contrôle pour les rares Gazaouis autorisés à se rendre ou transiter par Israël. Des malades ayant besoin de traitement à l'extérieur, quelques ouvriers travaillant en Israël ou des hommes d'affaires. C'est par là que je passais. C'est par là aussi qu'est sorti ce jeune Gazaoui. Il se fait appeler Ali, mais c'est un nom d'emprunt. Il est aujourd'hui en France, mais il préfère rester anonyme. Le débat public français ne permet pas une liberté de parole pour les Palestiniens, juge-t-il.
Pour moi, j'étais choqué que c'est possible, que je suis sorti de Gaza et c'est possible, et que Gaza est derrière moi, des murs enfermés, il y a 2 millions de personnes qui étaient bloquées derrière moi, dont ma famille. Donc le premier sentiment, j'étais choqué que c'est possible, que ça existe.
Pour sortir de Gaza par Beit Hanoun et Rez, il faut d'abord passer par un poste de contrôle tenu par le Hamas. De là, un taxi m'emmenait jusqu'à un deuxième poste à quelques centaines de mètres, celui de l'autorité palestinienne. Celle-ci n'avait plus guère de pouvoir à Gaza, elle en a été chassée par le Hamas en 2007, nous y reviendrons dans cet épisode. Mais elle servait d'intermédiaire avec Israël. Puis il restait environ 1 kilomètre à parcourir. Je le faisais souvent à pied, par un long chemin grillagé. Au poste israélien, des employés palestiniens indiquaient de laisser toutes mes affaires dans des grands bacs qui partaient à la fouille. De mon côté, je devais passer par un scanner corporel, capable de détecter d'éventuels objets dissimulés sous les vêtements. Des agents israéliens étaient situés dans une pièce, un étage plus haut, et ils nous regardaient par la vitre. Ils donnaient des instructions aux employés palestiniens présents dans la pièce. Une fois ces contrôles passés, je devais attendre mes bagages et les refaire car le contenu en avait été sorti, puis passer par un guichet qui enregistrait les entrées. L'ensemble du parcours me prenait de 3 quarts d'heure à 1 heure et demie selon le nombre de personnes présentes. Cette traversée, je l'ai faite de nombreuses fois. Ali, lui, n'a parcouru ce trajet qu'une seule fois au cours de sa vie pour venir faire des études en France. Et c'est déjà plus que ses camarades.
J'avais l'impression d'avoir beaucoup de la chance. Comme j'étais boursier par la France, c'est l'ambassade de la France qui a fait l'autorisation pour sortir de Gaza par Erez. Donc, tout d'abord, j'étais... En fait, je ne sais pas, c'était des sentiments d'être impatient de sortir. Après, il y avait beaucoup de machines, j'ai pas compris, des gens qui me parlent derrière des fenêtres, il faut lever les mains, je sais pas quoi, j'ai rien compris, je voulais juste sortir de cet endroit. Et puis, quand je suis sorti, j'étais choqué du fait que c'est très simple, c'était comme une porte d'une station de métro, c'est juste, il faut passer une petite porte et c'est fini. Le blocus de Gaza, c'est derrière moi.
Pas de grande porte métallique, juste un tourniquet pour sortir du complexe d'Erez. Le système qui l'avait enfermé dans Gaza semblait soudain bien léger à Ali. Sur le parking, une voiture diplomatique française l'attendait pour l'emmener au poste frontière avec la Jordanie. Mais à travers les vitres de la voiture, le jeune homme, alors âgé de 23 ans, découvre la vie hors de Gaza. Une vie normale, dit-il. Des familles qui achètent des jouets à leurs enfants, alors qu'à quelques kilomètres de là, plus de 2 millions de personnes vivent sous blocus. Et lors de cette courte traversée, il avait également une mission.
Je suis un réfugié palestinien de 3e génération. Donc mes grands-parents, ils ont été obligés de quitter un autre village qui s'appelle El Masmi El Kbir. C'est un village qui est entre Gaza et Jérusalem, et ce village n'existe plus. Donc mon père m'a dit, dans la voiture, il faut essayer de chercher El Masmiye, d'essayer de trouver El Masmiye. Et moi, ma réponse, c'est même toi, tu ne seras pas capable de trouver El Masmiye, là, elle n'existe plus. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas cherché, mais bien sûr, je ne l'ai pas trouvé, elle n'existe plus.
Dans la bande de Gaza, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a recensé près d'1,5 million de réfugiés. Cela représente 2/3 de la population. Les habitants de Gaza, originaires de ce territoire, sont une minorité. Oum Shadi, elle, fait partie de cela. Elle est née en 1945 dans une famille chrétienne, loin des images de pauvreté et de territoires fermés auxquels Gaza est aujourd'hui associé.
Vous savez, je suis née avec une cuillère en or dans la bouche parce que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Mon père était un homme riche, très riche. Il travaillait comme orfèvre, il fabriquait des bijoux. En plus de cela, il était marchand. Il avait l'habitude d'aller au Liban, en Syrie, pour vendre des marchandises et revenir.
Dans le plan de partition de la Palestine voté par l'ONU, il était prévu que Gaza fasse partie du futur État arabe. environ 70 km de territoire le long du littoral méditerranéen et une centaine de kilomètres le long de la frontière avec l'Égypte devaient être rattachés à cet État à naître. Mais à l'issue de la première guerre israélo-arabe, l'Égypte n'a gardé le contrôle que d'un territoire beaucoup plus restreint. La guerre de 1948 a fait rage et a marqué Oum Shadi, à leur petite fille.
J'étais chez moi avec ma famille. Nous entendions le bruit des avions de guerre autour de nous. Ou alors ils venaient à la maison voisine et disaient qu'elle devait être détruite et qu'ils la feraient exploser. Ce qui nous a permis de survivre, ce sont les abris anti-bombes de fortune. On avait fait un abri souterrain en forme de W. Cet abri, il était pour tout notre quartier. Personne n'était chez lui à l'époque, car toutes les maisons étaient bombardées. Tout le quartier avait besoin de cet abri pour rester en vie.
Malgré sa taille réduite, cette bande de terre a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés.
Il y avait beaucoup de camps autour de Gaza. On ne parle pas de camps, de tentes. C'était des garages ou des bâtiments de ce type-là. On peut y vivre quelques jours, mais pas longtemps. Et bien sûr, il n'y avait pas de travail. Tout le monde devait donc être agriculteur. Il y avait des gens qui étudiaient, mais ils étudiaient en Égypte. C'était le cas de mes frères. Deux sont devenus médecins. Un ingénieur. Tous les trois ont étudié en Égypte, mais tout le monde ne pouvait pas envoyer ses enfants étudier en Égypte, seulement ceux qui avaient de l'argent. Les gens qui n'avaient pas d'argent ne pouvaient pas le faire et devaient travailler comme fermiers. C'était notre vie. C'était tout.
Comment étaient les relations entre les réfugiés et les Gazaouis comme vous ?
Nous avions de très bonnes relations. Bien sûr, il s'agissait de nos parents. Certains d'entre eux, au moins, étaient de la famille de gens de Gaza, des gens de Haïfa qui étaient venus. Et les relations étaient bonnes. Les gens s'entraidaient. Par exemple, on accueillait chez nous ceux qui n'avaient pas de maison jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit pour habiter.
De 1948 à 1967, la bande de Gaza a donc été contrôlée par l'Égypte. Tout était normal, assure Oum Shadi. Le port fonctionnait, Gaza pouvait exporter ses agrumes vers l'Égypte, le Liban et la Syrie. Ses habitants pouvaient voyager. Pour ses études, Oum Shadi est partie en Égypte. Elle se trouvait d'ailleurs là-bas quand la guerre des six jours en 1967 a éclaté et qu'Israël a pris le contrôle de Gaza. N'étant pas sur place lors du conflit, elle n'a pas été recensée par Israël comme habitante de Gaza et elle s'est vue interdire de rentrer. Elle a alors rejoint un de ses frères en Libye. Elle y est restée 10 ans. Elle y a rencontré son mari, un Palestinien venu de Cisjordanie. Ils sont finalement rentrés chez lui, près de Bethléem, à Beit Sahour. C'est là que je l'ai rencontrée. Mais à cette époque-là, elle pouvait rendre visite facilement à sa famille.
Je pouvais même y aller en voiture. Cela nous prenait 1h30 pour arriver à Gaza. Ce n'est pas si loin. Et nous y allions de temps en temps le week-end. Notre week-end, c'était le jeudi après-midi et le vendredi. On partait en voiture le jeudi après-midi avec les enfants et on restait là-bas avec eux. Et on repartait de Gaza le samedi matin et nous allions directement au travail. Je peux dire que c'était l'âge d'or. L'âge d'or. C'était un endroit très beau, vraiment très beau, avec les arbres fruitiers, la mer. Beaucoup de gens aimaient aller à Gaza pour le week-end. Ça ne coûtait pas cher.
Les Palestiniens, mais aussi les Israéliens, venaient passer des week-ends à Gaza ou y faire des courses. Cela a duré jusqu'à la première intifada, un soulèvement populaire qui a éclaté en décembre 1987. Après avoir conquis Gaza et la Cisjordanie 20 ans plus tôt, Israël a combattu les forces de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat. Dans le courant des années 1970, le pays avait réussi à démanteler l'essentiel des cellules combattantes. Mais elles se sont reformées dans les années 1980 en s'appuyant sur une colère croissante dans la population palestinienne. La même colère qui a conduit à une protestation spontanée en 1987. Omar Chaban est le directeur d'un groupe de réflexion nommé PalThink, basé à Gaza. Je l'ai souvent rencontré pour évoquer avec lui les évolutions de la vie palestinienne. Après le 7 octobre 2023, il a pu partir et entrer en Égypte. Et c'est depuis le Caire qu'il répond désormais à mes questions.
Je m'en souviens très bien, j'avais alors 25 ans. La colère des Palestiniens commençait à croître en raison de l'occupation et du traitement brutal des soldats israéliens à Gaza. Ils sont devenus très durs, si bien que l'armée israélienne s'est montrée plus sévère à l'égard de la population. La colère a donc explosé et cela a conduit à la première intifada, qui a été déclenchée en réponse à un accident de voiture en Israël où des travailleurs palestiniens de Gaza ont été tués dans l'accident. Leurs funérailles ont eu lieu à Jabalia, au nord de Gaza, et elles se sont transformées en une manifestation contre l'occupation qui s'est ensuite étendue à d'autres régions de la bande de Gaza. La première intifada a donc commencé à Jabalia le 8 décembre 1987 et s'est poursuivie jusqu'en 1992-93, lorsque l'autorité palestinienne est entrée en fonction en 1994.
En 1993, les accords d'Oslo accordent aux Palestiniens le contrôle des villes dans les territoires occupés, à l'exception de Jérusalem-Est. Gaza est l'une des premières dont les forces israéliennes se retirent. Et c'est dans cette enclave que Yasser Arafat, le chef historique de la lutte palestinienne, est revenu le 1er juillet 1994. Une période pleine d'espoir pour les Gazaouis. Ahmed Achour est né à Gaza et il y vit encore. Il avait 8 ans lorsque le dirigeant de l'OLP est arrivé dans sa ville, mais il en garde un souvenir très fort.
Je me souviens que c'était un très grand jour. Et je me souviens que tout le monde, autour de moi au moins, ma famille, mes voisins, mes amis, attendaient ce moment. Attendaient que l'OLP revienne en Palestine et que Yasser Arafat soit là. Comme un symbole de la Palestine libre. Un symbole de l'État de Palestine. Je revois les gens dans la rue. Et ce n'était pas seulement lorsqu'il est arrivé ce jour-là, mais même après. Chaque fois qu'Arafat se déplaçait dans les rues, je me souviens que nous faisions la queue pour le voir, pour l'acclamer. Il sortait la main de sa voiture pour saluer les gens. C'était un moment de joie de le voir. Et j'ai senti qu'il n'était pas comme tout le monde. C'est un véritable héros, vous savez, un leader.
Dans les premières années qui ont suivi la signature des accords d'Oslo, c'est à Gaza que Yasser Arafat passait l'essentiel de son temps. Et j'avais pu visiter sa maison en 2019.
C'est dans un quartier résidentiel, pas très loin du front de mer, que Yasser Arafat s'est installé à Gaza.
Ça, c'est le salon.
Elle était loin du faste d'un palais présidentiel, mais c'est bien cette maison qui était le cœur du pouvoir palestinien dans les premières années de l'autorité. Elle a été largement endommagée par l'armée israélienne en février 2024. Dans la seconde moitié des années 1990, Gaza a reçu la visite de dirigeants étrangers. Le président français Jacques Chirac, en 1996, puis l'américain Bill Clinton, en 1998. Ahmed Achour a participé à la réception de ces deux chefs d'État.
Je me souviens très bien de la visite de Bill Clinton et de Jacques Chirac à Gaza. L'école a envoyé une délégation à la maison d'Arafat et j'en faisais partie. Nous avons participé à la réception de ces dirigeants. Et parfois, je me souviens avec fierté d'avoir fait partie de ces délégations d'enfants. Je me souviens aussi, par exemple, du moment où Arafat a inauguré, avec Bill Clinton, l'aéroport de Gaza. J'étais là.
C'était le 14 décembre 1998. L'architecture du bâtiment avait été travaillée, des arcades sur la façade et des mosaïques offertes par le roi du Maroc. L'ouverture avait fait l'objet de longues négociations avec Israël. Pour les Palestiniens, l'aéroport, qui pendant 2 ans a permis des vols directs vers la Jordanie, l'Égypte ou le Maroc, était un symbole de souveraineté, la promesse d'un chemin vers un État indépendant, même si le processus de paix piétinait. L'espoir fut vite balayé.
Le moment où Israël a bombardé l'aéroport a été un tournant pour nous. Car l'aéroport était alors le principal symbole de la Palestine libre.
Nous avons alors eu l'impression que l'histoire se répétait et que le rêve de l'État palestinien demeurait inaccessible.
La tour de contrôle et la station radar ont été bombardées par Israël le 4 décembre 2001 après une attaque dans laquelle 4 de ses soldats ont été tués. C'était un peu plus d'un an après le début de la seconde intifada. Nous l'évoquions dans les épisodes précédents, c'est en septembre 2000 que ce deuxième soulèvement populaire contre l'occupation israélienne a débuté. En septembre 2000, Ali, que nous avons entendu au début de cet épisode, venait de faire sa rentrée en école primaire.
C'était deuxième, troisième semaine après la rentrée. Et c'était ma première année à l'école aussi. Et je me rappelle très bien qu'en arrivant à l'école, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient juste en face, la porte était fermée. Et on a bien compris avec ma sœur qu'il n'y a pas de l'école aujourd'hui parce qu'il y a l'intifada. À l'époque, j'ai rien compris. En rentrant à la maison, il y avait les chansons de l'intifada, ou En El Malayin par exemple, qui étaient toute la journée avec les photos des enfants, des blessés, des enfants qui jettent des prières, tout ça. Mais ma grand-mère qui pleurait tout le temps parce qu'il y avait des photos des enfants, des adolescents qui étaient blessés ou morts. Donc, comme un enfant, j'ai bien compris que il y a des soldats méchants qui tuent les enfants. C'était ça que j'ai compris.
Durant la seconde intifada, le Hamas a été très actif. Le mouvement islamiste avait été créé en 1987, au moment de la première intifada. Mais il avait été moins présent que les autres groupes armés palestiniens. Le Fatah et les partis de gauche, comme le FPLP et le FDLP. Mais en 2000, il avait gagné en puissance et en légitimité populaire, souligne Omar Shaaban, le directeur du groupe de réflexion Palthink.
Le Hamas a tiré profit de la création de l'autorité palestinienne. Avant cela, les services de renseignement israéliens étaient présents à Gaza et suivaient tout, ce qui rendait les choses impossibles ou presque. Mais sous l'autorité palestinienne, il y avait une autorité nationale, des policiers palestiniens. Le Hamas a donc profité de la liberté créée par la mise en place de l'autorité nationale palestinienne. Il a pu mieux s'organiser, se procurer des armes, se former. Il a donc commencé à lancer des attaques contre les soldats israéliens à Gaza. Certaines d'entre elles ont été couronnées de succès. Le Hamas s'est alors présenté comme celui qui défend les droits des Palestiniens et qui poursuit la lutte. L'autorité palestinienne dirigée par le Fatah n'avait pas les mêmes moyens de pression puisqu'il faisait partie de l'autorité. Le Fatah devait traiter avec les Israéliens de manière pacifique alors que le Hamas est dans l'opposition. Et chaque fois que vous êtes dans l'opposition, vous bénéficiez des erreurs de ceux qui sont au gouvernement.
En 2004, le premier ministre israélien, Ariel Sharon, présente un plan de désengagement de la bande de Gaza. Il est mis en œuvre l'année suivante, sans concertation avec les dirigeants palestiniens. En 2005, donc, l'armée israélienne démantèle toutes les colonies dans l'enclave palestinienne et elle évacue environ 7500 de ses citoyens qui vivaient dans ce territoire occupé. Les soldats israéliens se retirent également. Mais Israël conserve le contrôle des frontières terrestres et maritimes, ainsi que de l'espace aérien. C'est là l'une des rares évolutions notables sur le terrain. Mais elle ne marque pas la relance d'un processus de paix. Il n'y a plus de négociations et la colonisation se poursuit en Cisjordanie comme à Jérusalem-Est. La construction politique palestinienne est à l'arrêt. Sur le plan intérieur, les scrutins qui sont censés avoir lieu sont repoussés. Mais en 2004, la mort de Yasser Arafat impose la tenue d'élections. Une présidentielle l'année suivante, elle est remportée par le candidat du Fatah, Mahmoud Abbas, et des législatives en 2006 qui, elles, donnent la victoire au Hamas. Ces résultats soulignent la fracture politique dans les territoires palestiniens. Mais cette fracture était antérieure à ces scrutins, estime Mustapha Barghouti. Il est le secrétaire général de l'Initiative nationale palestinienne, une formation de gauche. Il avait été candidat à la présidentielle de 2005. Nous l'avions rencontré à Ramallah dans l'épisode 2.
La division a commencé après la signature de l'accord d'Oslo. C'est à ce moment-là qu'a commencé la division au sein de la société palestinienne comme de l'échelon politique. Il y avait ceux qui étaient d'accord avec Oslo et ceux qui considéraient Oslo comme une erreur. Mais sur le plan organisationnel, cela n'a pas divisé le pays. La preuve en est que nous avons continué à organiser des élections en 2005 et 2006 à la mort d'Arafat.
La victoire du Hamas aux législatives est donc celle du camp opposé à Oslo. C'est une défaite pour le parti historique palestinien, le Fatah, du nouveau président Mahmoud Abbas. Elle change donc le paysage politique palestinien, d'autant que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par Israël et ses partenaires occidentaux et qu'il fait l'objet de sanctions internationales.
Abbas a été obligé de le laisser former le gouvernement, qui a été immédiatement isolé par l'Occident, par Israël, par tout le monde. C'est alors que je suis entré en scène et que j'ai entamé un processus de médiation entre le Fatah et le Hamas. Et nous avons mis en place le gouvernement d'unité nationale. Malheureusement, nous étions toujours assiégés. Même si tous les partis élus au Parlement étaient représentés au gouvernement, à l'exception d'un seul. Oui, le premier ministre était du Hamas, mais son adjoint était du Fatah. Il s'agissait d'une structure pluraliste, un idéal en somme. Et ce n'était pas un gouvernement extrémiste. Il y avait un programme très équilibré. Mais nous étions boycottés, et c'est à cause de ce boycott que le gouvernement s'est effondré en mars. Alors la scission a commencé entre le Fatah et le Hamas, qui s'est ensuite transformée en scission entre Gaza et la Cisjordanie.
Le 10 juin 2007, des combats entre les deux camps éclatent dans la bande de Gaza. Les affrontements durent 6 jours et finalement le Hamas l'emporte. Des responsables du Fatah sont arrêtés. Mohamed Ahlan, l'homme fort du parti dans la bande de Gaza, fuit en Égypte. Sa villa est pillée. Ali, que nous avons entendu tout à l'heure, avait alors 13 ans.
On n'est pas une famille de Hamas, mais on n'est pas aussi de Fatah. Mais on a des cousins des deux côtés. Et c'était choquant d'accepter le fait qu'on est en train de tuer l'un l'autre. Je me rappelle très bien des bruits, des tirs. J'ai vu quelques batailles, quelques échanges de tirs, et la population de Gaza était obligée le lendemain de vivre avec le fait que c'est comme ça. Je me rappelle très bien que juste après une semaine de ça, il y avait le jour de donner les certificats scolaires à l'école, et c'était le premier jour pour nous de sortir de la maison. Et je me rappelle très bien qu'avec mon père, on était dans la voiture avec ma petite sœur. Et lui, il va dire, bah là, on va découvrir Gaza, Gazastan. Il y avait ce peur de comment la vie va être sous le contrôle de Hamas.
Pour toute une partie de la population, cette prise de pouvoir était un saut dans l'inconnu, entre crainte d'une islamisation de la société et interrogation autour de l'avenir politique. Comment la résistance à Israël, dont le Hamas se revendiquait, allait-elle se manifester ? Et quel rapport le mouvement allait-il établir avec la société, notamment ses adversaires politiques, après ce coup de force ? Les premiers jours ont été déterminants, se souvient Ali.
Les gens avaient toujours l'idée que le Hamas est vraiment parti des résistants, etc., des vrais croyants. Leurs objectifs, c'est vraiment de libérer la Palestine par des valeurs religieuses. Donc il n'y avait pas l'idée qu'on a construit après que bah, le Hamas est un gouvernement qui essaye de rester en pouvoir, qui peut tuer des Palestiniens, qui peut torturer des Palestiniens. Et juste après, en novembre, c'était l'anniversaire de la mort de Arafat. Et à ce jour-là, Hamas a donné l'autorisation pour Fatah pour organiser ça.
Une commémoration pour l'anniversaire ?
Oui, et là, il y avait des milliers de personnes qui sont sorties, parce que c'est autorisé, donc là, la police de Hamas a attaqué cette fête. Et en fait, la relation avec le Hamas était construite, entre le peuple et le Hamas. Il ne faut pas essayer d'être contre ce gouvernement, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution que d'être kidnappé, ou tué, ou avoir une balle dans la jambe, ou...
Les restrictions imposées par Israël aux Gazaouis ont commencé durant la première intifada, entre 1987 et 1993. Mais après la prise de pouvoir du Hamas, l'enclave a été mise sous blocus. Les contrôles ont été renforcés et de nombreuses marchandises interdites à l'importation. Israël disait craindre qu'elles ne puissent être utilisées à des fins militaires. L'impact a été immédiat, se souvient Ali.
Juste après 2007, Le blocus, il était très, très, très fort. Je me rappelle des scènes de supermarché vides. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz. À l'époque, toutes les voitures de Gaza marchaient sur le huile de cuisine.
Face au blocus, une contrebande se met en place. Mais Israël contrôle les frontières terrestres et maritimes. C'est donc sous terre que les trafiquants choisissent de passer. Des tunnels sont construits entre Gaza et l'Égypte. Des tunnels qui ont été une bouffée d'oxygène pour les populations, se rappelle Ali.
Comme j'ai dit, on est arrivé à un moment où les supermarchés étaient vides. Et dans un coup, on s'est retrouvé avec des chocolats égyptiens, des biscuits égyptiens. Avant, c'était des produits israéliens, donc l'écriture, c'était soit en anglais, soit en hébreu. Et là, les supermarchés étaient avec des produits avec l'écriture en arabe. Donc oui, les tunnels étaient le... En fait, il a laissé les Palestiniens de Gaza vivre. Et il y avait des gens qui passaient aussi. Je me rappelle, par exemple, 2013, ma grand-mère est morte. Et mon oncle vivait à l'époque en Égypte. Il voulait venir la voir pour la dernière fois. C'était impossible pour lui de venir dans une manière légale. Donc, il est venu par les tunnels pour voir ma grand-mère pour la dernière fois. Pour moi, je me rappelle très bien que la scène d'être à la maison, ma grand-mère, elle est là, elle est morte. Et on attend mon oncle pour venir avant d'aller à la mosquée pour finir toute la procédure. Donc, c'était un alternatif pour les Gazaouis sous le blocus qui était vraiment très, très dur.
Mais la technologie des tunnels n'a pas été utilisée que pour la contrebande. Les souterrains à vocation paramilitaire pour le Hamas se sont multipliés. Et les Gazaouis ont réalisé qu'ils vivaient au-dessus d'une ville de tunnels, dit Ali. Sans surprise, ces tunnels étaient régulièrement bombardés par l'armée israélienne. Mais cela n'a pas empêché le Hamas de développer tout un réseau souterrain. La force du blocus imposée à la bande de Gaza a évolué au cours des années en fonction du rapport de force entre Hamas et Israël. Les épisodes de tension ou les confrontations armées étaient en général suivis d'un accord pour faire entrer plus d'essence, d'électricité, de marchandises, ainsi que des millions de dollars en liquide dans l'enclave palestinienne. Et après la révolution égyptienne, le Hamas a aussi pu compter brièvement sur le soutien des frères musulmans au pouvoir au Caire pendant un an, de 2012 à 2013. Mais depuis 2007, le quotidien des Gazaouis est fait de restrictions. Impossibilité de sortir, pénurie, électricité disponible quelques heures par jour uniquement. Le taux de chômage a explosé et en de rares occasions, les Gazaouis ont bravé la répression pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de leurs dirigeants. Comme au début de l'année 2017, où des manifestations ont eu lieu pendant 4 jours. Je m'étais rendu sur place un peu plus tard et avait pu rencontrer certains de ces manifestants. Allongé sur un matelas, une jambe dans le plâtre, Mahmoud se souvient de l'arrivée des forces du Hamas dans son appartement délabré du centre de la bande de Gaza. Ils étaient une quarantaine, raconte-t-il d'une voix fatiguée. Ils sont entrés et ont cassé cette porte, dit-il. Les coups reçus lui ont également cassé la jambe. Il a ensuite été détenu pendant 6 jours. Les souvenirs sont également douloureux pour sa femme. Les enfants aussi ont été frappés, dénonce-t-elle avec force. À l'étage du dessous, le frère de Mahmoud a été arrêté le même soir. Il a reçu des coups de matraque et a été blessé au pied. Et ce qu'il qualifie de torture, tant physique que psychologique, dit-il, a continué en prison. Il a été contraint de passer des heures les bras levés. Le 21 mars, les deux frères ont été libérés, mais ils ont dû signer une promesse de ne pas reprendre les manifestations sous peine d'une amende de 20 000 dollars. Au fil des ans, de nombreuses tentatives de réconciliation entre le Hamas et le Fatah ont eu lieu. Des discussions ont été menées dans différents pays de la région, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Égypte ou encore au Qatar. En vain, plusieurs facteurs ont pesé dans ces échecs successifs. L'absence d'engagement sincère des partis palestiniens, l'attitude d'Israël qui a entretenu cette division qui lui permettait de ne pas reprendre un processus de paix et le poids des acteurs internationaux. Les grands pays qui pèsent dans la région soutenaient des camps opposés et voulaient conserver leur position. Quand le Fatah cherchait le soutien de pays occidentaux, le Hamas s'est rapproché de l'Iran. Le mouvement palestinien a intégré l'axe de la résistance, un réseau de groupes armés alliés à Téhéran. Cette division a aussi participé à un cycle de violence. Depuis 2007, le Hamas et Israël se sont affrontés à de nombreuses reprises. Certaines de ces confrontations ne duraient que quelques jours. Tirs de roquettes depuis la bande de Gaza et bombardements israéliens. Mais à quatre reprises, les deux parties se sont livrées une guerre. En 2008-2009, en 2012, en 2014 et en 2021. Et puis arrive le 7 octobre 2023. C'est un samedi matin. Aux premières heures du jour, le Hamas lance une offensive d'une ampleur inédite sur le territoire israélien. En quelques heures, ses combattants tirent des milliers de roquettes. Au sol, des commandos armés se lancent sur la barrière de séparation. Des assaillants franchissent aussi ces grillages par les airs avec des parapentes motorisées. Et d'autres passent par la mer. Leur cible, des bases militaires israéliennes, mais aussi des localités civiles situées près de la bande de Gaza et un festival de musique électronique. L'assaut prend soldats et habitants du pourtour de l'enclave palestinienne par surprise. Près de 1200 personnes sont tuées, majoritairement des civils, et 250 sont prises en otage et emmenées à Gaza. C'est l'attaque la plus meurtrière subie par le pays. Dans un communiqué, le Hamas affirme répondre aux attaques incessantes contre le peuple palestinien et ses lieux saints, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa dans la partie occupée de Jérusalem-Est. Ce matin-là, Ahmed Achour était chez lui avec sa famille.
Je dormais, c'était un samedi, et soudain tout a basculé. À 6 heures du matin, nous avons été réveillés par le bruit des roquettes. J'ai eu un sentiment d'horreur avec ma famille, parce que le bruit venait de partout dans la ville de Gaza. Même nous, qui vivons ici, nous avons eu l'impression que quelque chose d'énorme était en train de se produire, parce que les roquettes venaient littéralement de partout dans Gaza. Les enfants ont eu peur et j'ai dû les prendre dans mes bras au lieu de les préparer pour l'école. Car normalement, à cette heure-là, ils se réveillaient pour aller à l'école.
En réponse, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d'éradiquer le Hamas. Et l'aviation et la marine israélienne ont commencé à bombarder l'enclave palestinienne. De nombreux Palestiniens, vivant dans des zones qu'ils savaient exposées, ont quitté leur domicile et se sont réfugiés dans des écoles de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ahmed Achour, lui, était plus éloigné des premières cibles israéliennes. Il est resté chez lui, tout en essayant de se préparer à un conflit de longue durée.
Mon bébé avait 6 mois le 7 octobre. Et pour un bébé de 6 mois, il faut beaucoup de lait. Il faut préparer sa nourriture. La première chose que j'ai faite, c'est donc d'aller à la pharmacie, d'aller à l'épicerie, d'acheter de la nourriture, du lait pour mon enfant et pour ses frères et sœurs. J'ai 3 enfants, comme je vous l'ai dit. Et nous ne nous attendions pas du tout à devoir quitter notre maison quelques jours plus tard. Le 13 octobre, Israël a donné l'ordre d'évacuer toute la ville de Gaza. Nous avons donc laissé tout ce que nous avions stocké chez nous. Puis la maison a été détruite.
Lorsque l'ordre d'évacuation est tombé, une de ses collègues lui a proposé de l'accueillir chez elle, dans la moitié sud de la bande de Gaza. Lui et 18 membres de sa famille. Dans les heures qui ont suivi, les deux maisons mitoyennes de la sienne ont été bombardées, la sienne sévèrement endommagée. Quelques jours plus tard, l'armée israélienne lançait une offensive terrestre. Petit à petit, les combats ont gagné l'ensemble de la bande de Gaza. En octobre 2024, au moment où j'enregistre cette série, plus d'1,7 million de personnes sont déplacées à l'intérieur de ce petit territoire. Et plusieurs dizaines de milliers ont été tuées, en majorité des femmes et des enfants. Plusieurs pays accusent Israël de génocide devant la Cour internationale de justice. Et face à ce bilan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son indignation.
C'est inimaginable, le niveau de souffrance à Gaza. Le niveau de mort, de destruction n'ont pas d'équivalent dans tout ce dont j'ai été témoin depuis que je suis secrétaire général. Bien entendu, nous condamnons toutes les attaques terroristes menées par le Hamas. ainsi que les prises d'otages. Il s'agit d'une violation absolue du droit humanitaire international. Mais la vérité, c'est que rien ne justifie la punition collective du peuple palestinien. Et c'est ce à quoi nous assistons de manière dramatique à Gaza.
Nous avons beaucoup de mal à assurer l'essentiel au quotidien, à savoir la nourriture, l'eau et tout le reste. Ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, vous ne le trouverez peut-être plus le lendemain. Il n'y a donc pas de stabilité, il n'y a pas d'aide qui arrive. Et ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas d'aide, mais ouvrez le marché régulier, laissez les gens acheter. Mais même le marché régulier est contrôlé par Israël. Il n'autorise que certaines denrées alimentaires à entrer à Gaza. Par exemple, les légumes ne sont pas autorisés à entrer, alors que les fruits le sont. Les prix sont au moins 4 ou 5 fois plus élevés que les prix normaux. Les camions qui entrent dans la bande de Gaza ont été réduits au minimum. C'est vraiment le minimum qui passe par le point de contrôle de Kerem Shalom ou de Kerem Abou Salem.
Tu as dit que les légumes n'étaient pas autorisés, mais que les fruits l'étaient. Et tu sais pourquoi ?
Personne ne le sait. Depuis le 7 octobre, les Israéliens n'autorisent plus non plus ni shampoing ni savon. On ne peut donc pas se laver.
Les prix atteignent des niveaux très élevés. Près de 20 euros pour un kilo de riz et même une dizaine d'euros pour une seule tomate dans le nord de la bande de Gaza, où les convois sont encore plus rares. L'aide humanitaire peine à arriver à la population. Voici un reportage du correspondant de RFI à Gaza, Rami El-Merari, avec Sami Bourkhlifa.
Allongée dans les bras de sa mère, la petite Lynn est épuisée. La nourriture est rare, l'enfant n'a pas mangé depuis 24 heures. Et ce n'était même pas un vrai repas, confie Jamila, sa mère.
C'était une pomme de terre, une seule. C'est ma voisine qui nous l'a donnée. C'est vraiment histoire de dire qu'on a mangé. Parfois, ma sœur ou d'autres voisins nous aident. Ils nous donnent de l'eau et du pain. C'est mieux que rien.
La petite a 6 ans. Son père, Mahmoud, est révolté par cette situation. Il en veut aux Israéliens, mais pas seulement.
La petite souffre de malnutrition et même l'eau que nous avons n'est pas potable. C'est une eau saumâtre. Comment la soigner ? Je cours d'un hôpital à l'autre sans résultat. Personne ne parvient à nous aider. Elle pourrait mourir à n'importe quel moment. On est à la merci des escrocs qui s'accaparent l'aide alimentaire gratuite et qui la revendent à la population. On est à la fois opprimés par ces escrocs et par les Israéliens qui nous font la guerre.
Dans la bande de Gaza, la situation est chaotique. L'effondrement de l'autorité du Hamas laisse place à l'anarchie. Des gangs mettent la main sur les colis alimentaires parachutés et les revendent au prix fort à la population. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourkhlifa, Jérusalem, RFI.
Pris dans une guerre qui s'éternise, les Gazaouis tentent jour après jour de survivre. Penser à l'avenir et bien souvent se demander ce qu'ils vont manger dans la journée, où ils vont dormir le soir. Quand ils se forcent à voir plus loin que le moment présent, Ahmad Achour pense d'abord à ses enfants.
Tout d'abord, j'ai besoin d'un endroit sûr pour mes enfants. C'est mon espoir. Un endroit où ils pourront être élevés librement, loin des murs et loin du risque de les perdre. C'est ma préoccupation. C'est ma première préoccupation en ce moment. Et j'ai réussi à assurer leur passage en Égypte. Je me sens donc un peu mieux, car ils sont en sécurité là-bas. Mais j'ai besoin qu'ils poursuivent leur vie comme n'importe quel enfant normal, où que ce soit dans le monde.
L'objectif premier est que ces enfants puissent retourner à l'école, ce qui n'est pas possible en Égypte. Les petits Gazaouis ne sont pas autorisés à s'y inscrire. S'il arrive à quitter Gaza, Ahmad Achour envisage donc un avenir immédiat en Europe. Mais cette étape, il l'espère temporaire.
Quant à moi, mes projets, tous mes projets, sont liés à la Palestine. Je veux participer à la reconstruction de Gaza et d'une Palestine libre. Nous avons connu des années très difficiles. Ça fait 17 ans maintenant que Gaza et la Cisjordanie sont séparés.
Et ce n'est pas uniquement une séparation politique, mais aussi celle de la population. La plupart des habitants de Gaza n'ont jamais visité la région, tout du moins ceux qui sont nés au cours des deux dernières décennies. Ils n'ont jamais eu l'occasion de quitter Gaza, même pour se rendre en Palestine, que ce soit en Cisjordanie, à Jérusalem. Ça doit également cesser. Les habitants de Gaza devraient avoir la possibilité de vivre librement, sans restriction. Nous devrions avoir la possibilité de reconstruire notre pays, notre rêve.
Le rêve d'un État palestinien, d'une vie sans occupation ni barrière, est désormais plus lointain, relégué au second plan après l'urgence imposée par une guerre très violente. Mais même si dans ce contexte, ce rêve semble totalement inaccessible, il reste présent. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons sur le territoire situé à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël, à la rencontre des Palestiniens qui ont une carte d'identité israélienne.